Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur l'allongement des délais de prescription. Il passe en France de 10 à 20 ans pour les crimes, de 3 à 6 ans pour les délits, mais pas tous les délits, on va le voir. Cette loi est transpartisane, c'est assez rare en France pour être souligné. Elle est d'une certaine façon dans l'air du temps et elle semble répondre à une demande sociale maintes fois exprimée à l'occasion d'affaires qui n'ont pu être jugées, car les faits aussi choquants qu'ils soient étaient prescrits. Pourtant, des magistrats et des associations de victimes restent critiques. Ces dernières récusant parfois l'idée même de prescription pour certains crimes, surtout les viols, les violences sexuelles sur mineurs. Intervenez dans le téléphone sonne ce soir au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr via Twitter avec le mot-clé Telson.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Et c'est Rémi qui démarre ce débat. Bonsoir et bienvenue sur France Inter.
Bonsoir, merci. Oui, donc le titre de l'émission n'était pas tout à fait correct, mais vous êtes rattrapé sur le fil.
Et voilà, en fait, c'est un principe de suspense.
Ah, bravo.
mais corrigez-moi maintenant, allez-y de bon cœur, allez-y de bon cœur, vraiment.
Hein. Donc ouais, les délais de prescription ne sont pas tous allongés, mais uniquement modifiés, puisqu'en effet, pour les délits financiers, comme les abus de biens sociaux par exemple, le délai de 3 ans courait jusque-là à partir de la date de la découverte de l'infraction, sans limite de durée entre la date à laquelle le délit avait été commis et la découverte. Mais à présent, cette durée est limitée à 12 ans, ce qui aurait par exemple prescrit l'affaire Fillon. Donc est-ce que les invités pourront m'expliquer pour quel motif la prescription doit être allongée dans certains cas et avancer dans d'autres, parce que là j'ai un peu du mal à comprendre.
Merci Rémi pour cette question, il y en a de très nombreuses exactement sur le même thème au standard ce soir. Laurence Blisson, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être au micro d'Inter, secrétaire général du syndicat de la magistrature. Maître Rodolphe Costantino, pardon. Bonsoir.
Bonsoir.
Avocat au barreau de Paris, défenseur de l'association Enfance et Partage. Corinne Audouin, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste au service enquête justice de France Inter. Qui veut répondre à Eric? Vous y allez, Laurence Blisson?
Oui. Alors, c'est la mauvaise surprise que nous a réservé ce débat parlementaire dans les derniers moments. C'est effectivement la modification de ce qui était une jurisprudence constante de la Cour de cassation, c'est-à-dire de dire que, en matière économique et financière, parce que les infractions sont souvent occultes ou dissimulées, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen pour l'institution judiciaire ou pour les victimes de savoir que certains actes graves, hein, d'abus de biens sociaux, par exemple, sont commis, eh bien, la Cour de cassation considérait que c'était à partir du moment où on pouvait connaître de ce délit que partait le délai de la prescription. Les débats parlementaires, en toute fin, ont ajouté une petite précision qui consiste à dire que au-delà de 12 ans, eh bien, il y a un couperet. Et qu'à partir de ce moment-là, on ne peut plus poursuivre des actes des délits économiques et financiers. On voit bien là que c'est lié en réalité à une volonté ancienne de certains dans la classe politique. Dans un temps, il fut un temps de dépénaliser le droit des affaires, et puis aujourd'hui encore d'être dans une dynamique qui consiste à finalement accepter une justice qui ne serait pas en capacité de poursuivre les délits économiques et financiers.
Et donc pour vous, ils se sont vraiment taillés une petite loi sur mesure?
En tout cas, on a du mal à comprendre pour quelles raisons est-ce que ce délai de 12 ans a été introduit dans la loi, alors même que la jurisprudence de la Cour de cassation était très claire sur le fait qu'on avait un report du délai de prescription qui était lié à leur caractère occulte ou dissimulé.
Maître Costantino, un mot sur ce dossier?
Non, mais j'abonde tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit. Il me semble bien évident que tout ça est dans le droit fil d'une idée déjà ancienne. Et que certes ça a été une surprise, mais en même temps on pouvait un peu s'y attendre.
Corinne Audouin.
Oui, pour préciser les choses pour effectivement le cas François Fillon, ce qui s'est passé, c'est que le parquet national financier a effectivement ouvert une information judiciaire assez rapidement, peut-être plus rapidement que prévu, parce qu'il avait peur que ce délai, ce nouveau délai de prescription s'applique à l'affaire Fillon, ce qui voudrait dire, on est en 2017, qu'on ne pourrait pas investiguer sur les faits antérieurs à 2005, à 12 ans. Sauf ce qu'il faut savoir, c'est que la prescription, le délai de prescription, si vous faites un acte positif d'enquête, des poursuites, vous interrompez ce délai de prescription. Donc en ouvrant une information judiciaire, on a gelé en quelque sorte ce délai. Avant que la loi entre en application, parce que la loi est est entrée en application mardi dernier. Voilà, c'est un petit peu technique, mais tout ça fait qu'effectivement, le juge d'instruction, les juges d'instruction qui sont actuellement saisis enquêtent bien sur toute la période sur laquelle le parquet a commencé de travailler.
Encore un tour de table avant de retourner au standard. Pourquoi avoir fait évoluer les durées de prescription? Comment se fait-il que ce soit arrivé là, à ce moment-là, de cette manière? Quelle était l'urgence ou la nécessité, Laurence Blisson?
Alors, on est dans un processus parlementaire qui est effectivement étonnant, puisque c'était une proposition de loi, c'est-à-dire que ça n'est pas un projet gouvernemental à l'origine, mais qui a été porté par François Fenech et Alain Touré à la suite d'une mission d'information. Georges Fenech et Alain Touré à la suite d'une mission d'information. Ce qui est plus étonnant, je dirais, parce qu'on a eu des lois successives sur la prescription, c'est que cette fois-ci, il y a eu un vrai unanimisme, un quasi-unanimisme au Parlement, et qui n'a malheureusement pas permis d'avoir un débat auquel nous, on a appelé au syndicat de la magistrature, avec du recul sur les incidences que peuvent avoir de telles modifications en matière de prescription. Mais il faut dire qu'il y avait eu un certain nombre d'affaires qui avaient été évoquées publiquement et qui avaient contribué à ce que, de chaque côté finalement de la sphère politique, il y ait une adhésion un peu par évidence
à ce texte.
Il y a bien
une pression sociale traduite par cette loi. Enfin, cette loi est un reflet de la pression sociale.
Il y a des formes de pression sociale qui s'exercent dans le sens de l'allongement de la prescription. Nous, on appelait les parlementaires à résister à cette pression sociale en essayant de mettre en avant les difficultés auxquelles cela aboutirait en matière d'investigation judiciaire et l'illusion que ça pourrait créer pour certaines victimes qui... Mmh. penser par ce biais être entendu à justice, mais qui malheureusement risque de se heurter à des décisions soit de non-lieu, soit de classement sans suite qui seront préjudiciables.
Rodolphe Costantino.
Oui, je crois qu'on pourra réévoquer plus tard effectivement les inconvénients de procédures instruites longtemps, trop longtemps après les faits, mais là encore, pour ce qui est de l'adoption de cette loi et de sa proposition, nous sommes là encore dans le droit fil de ce qui était déjà attendu et déjà dans les tuyaux depuis fort longtemps, puisqu'en effet, il y a tout à la fois une pression sociale, il y a aussi une actualité judiciaire qui a amené cette réflexion, et puis il y a aussi beaucoup d'associations de victimes qui se font entendre sur le sujet et qui certainement là l'ont emporté.
Étienne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Toulouse, bienvenue.
Merci. Oui, j'aimerais avoir l'avis de vos invités sur la prescription, la prescription extinctive. Savoir si ça ne risque pas, selon eux, de rendre les preuves et les indices obsolètes.
Très bonne question, Étienne. Merci beaucoup d'être intervenu. Rodolphe Costantino.
Oui, je crois que il faut bien avoir en tête que on peut. La demande des victimes de voir les délais de prescription rallongés, elle est une demande légitime. Je crois que beaucoup de faits d'actualité nous ramènent toujours à cette réalité absolument terrifiante de cette guillotine du temps qui s'abat sur les victimes, avant ou après d'ailleurs une instruction. Et on sait combien tout ça est difficile, mais je crois qu'il faut quand même entendre que, en effet, une des justifications de la prescription, ce n'est pas la seule, hein, on pourra y revenir, c'est la question de la déperdition des preuves. Voilà. Moi qui interviens depuis 25 ans sur les faits d'agression sexuelle, ce n'est pas rien d'en parler, hein, parce que c'est un pourcentage très important du contentieux judiciaire. Je sais que c'est un des écueils auxquels on est confronté et que ces lois qui rallongent indéfiniment la prescription depuis 1989, hein, on est dans un mouvement comme ça de cette logique-là, sont des lois finalement assez scélérates, si je puis dire, parce que elles font croire aux victimes qu'elles vont pouvoir déposer plainte quasiment à n'importe quel moment, et croire que les procédures prospéreraient, alors qu'on le voit au quotidien, ces procédures-là ne prospèrent pas et le plus souvent aboutissent à des décisions de non-lieu qui sont pas moins douloureuses que l'annonce du fait que les faits seraient prescrits avant même qu'on ait déposé plainte.
Expliquez-nous tout de même à nouveau pourquoi scélérate, maître.
Ben parce que je pense qu'elle flatte, elle flatte les victimes dans une demande qui est légitime de leur part. C'est normal que quelqu'un qui soit confronté à ce type de situation dise « mais moi, il me fallait du temps, j'avais besoin de temps pour déposer plainte, parce que ces affaires-là sont souvent des affaires intrafamiliales, et qu'il faut sortir du cercle de la famille, et qu'il faut se débarrasser de toutes ces valises qu'on traîne pour pouvoir aller déposer plainte. » C'est normal qu'elle réclame du temps, mais ces lois-là ont un effet pervers, et ça, on le dit pas suffisamment. On pense qu'on rend service aux victimes quand on leur dit, en tout cas les victimes pensent qu'on leur rend service quand on leur dit vous allez avoir plus de temps, mais ce qu'on leur dit pas, c'est qu'en définitive, à mesure que le temps passe,
il est de plus en plus difficile de réunir des preuves
et d'avoir des procédures qui prospèrent.
Corinne Audouin.
Pour rappeler justement ce que dit la loi, ça n'a pas été changé hein, par la loi de votée le 16 février dernier. Pour les agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, pour les viols sur mineurs, pour les violences sur mineurs de 15 ans, actuellement la prescription c'est 20 ans après la majorité. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été agressé à 5 ans, à 6 ans, il a jusqu'à ses 38 ans hein, pour porter plainte. Est-ce que vous estimez, Maître Constantino, que ça suffit, que c'est inutile de repousser au-delà? On parle beaucoup du cas de Flavie Flamand qui a été chargée d'une mission consensus sur ce thème-là. Elle dit qu'elle a pu dénoncer le viol qu'elle dit avoir subi à l'âge de 13 ans. Elle avait 42 ans, donc c'était trop tard pour elle.
Maître Constantino.
Si vous voulez, je pense que la situation n'est pas simple. L'idée, c'est pas de dire c'est suffisant, c'est pas suffisant. On va pouvoir toujours trouver tout un tas de situations dans lesquelles on se dit « Ah oui, mais là, si on avait eu plus de temps, on aurait pu faire quelque chose ». C'est vrai notamment dans ces histoires d'abus sexuels ou d'agressions sexuelles, quand on a plusieurs victimes, par exemple. Ça, sont des dossiers qui sont susceptibles de prospérer. Mais c'est pas la majorité des situations. Au contraire, ce sont des situations qui sont des situations exceptionnelles. Le gros de ces situations-là, ce sont des situations qui se sont passées dans le huis clos familial, qui se résument à la parole de l'un contre la parole de l'autre, et au bout de 20 années de tout ça, il ne reste plus rien. Précisément dans ces histoires dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on met beaucoup en avant ces situations où les victimes se souviendraient soudainement d'agressions sexuelles qu'elles auraient subies, c'est beaucoup mis en avant cette situation-là. Là aussi, c'est une situation qui est, j'ai envie de dire, extrêmement marginale. Hein, c'est pas le gros des affaires qu'on connaît, mais dans ces situations-là, ça veut dire que précisément, il n'aura jamais été parlé ou dit à personne pendant des années et des années et des années que ces faits auraient été commis, de sorte que le travail du juge d'instruction, qui d'ordinaire dans ces affaires anciennes consiste à remonter le temps comme le chemin du petit pousset et à voir quels sont les cailloux qu'on a laissés quand on en a parlé il y a 15 ans à son premier petit ami, à son institutrice, à je ne sais quelle voisine ou quel parent ou allié, ce travail-là ne pourra pas être fait. Donc ex nihilo, soudainement une agression sexuelle viendrait sur le bureau d'un juge dont on n'a parlé à personne et il faudrait réunir les preuves alors qu'en face vous allez avoir quelqu'un qui dit « mais moi, je ne sais même pas de quoi on parle ». C'est des dossiers qui vont être totalement vides et faire croire qu'on pourrait les faire prospérer devant la justice, ça n'est pas rendre service aux victimes. C'est ça qu'il faut qu'elles comprennent. C'est ça qui est important de faire comprendre. Je comprends la demande, elle est légitime, mais pour autant, on ne leur rend pas service.
Daniel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci de prendre ma question, du moins mon témoignage. Moi, je me pose même la question de la notion de prescription. À mon sens, je ne comprends pas pourquoi notre société se permet de prescrire des actes répréhensibles. J'entends bien cette notion de tout ce qui vient d'être dit par rapport au temps, par rapport à ces déperditions de preuves. Pour autant, je trouve qu'aujourd'hui, les éléments scientifiques nous donnent suffisamment d'éléments de compréhension du fonctionnement de la mémoire. Lorsqu'on est agressé, il y a pour survivre, le corps, par protection, va bloquer des processus. Bloquer pendant des années, 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et parfois, lors d'un événement de la vie, la mémoire s'ouvre et là la violence est démultipliée. Bien sûr qu'à ce moment-là, la plainte, je comprends que la plainte ne puisse pas être accueillie, je comprends ces problèmes de justice, mais c'est peut-être pas d'une plainte, puisque souvent à ce moment-là, les bourreaux sont parfois morts, mais au moins que la victime soit reconnue comme telle. Je ne crois pas que les victimes aient besoin de dédommagement, mais juste déjà de reconnaissance. peut-être y a-t-il un entre-deux à réfléchir. Et puis je voudrais, peut-être pour alimenter aussi le débat, parler du spectacle des chatouilles d'Andrea Bescon, qui a été primé d'un Molière, et qui parle tellement bien de ce problème.
Merci Daniel pour votre intervention, pour ce témoignage que je soumets à Laurence Blisson.
Le témoignage de Daniel, il est évidemment très douloureux et c'est un témoignage auquel des juges sont confrontés au quotidien, des juges d'instruction qui sont saisis. Malheureusement, je crois que ce qui a été précédemment dit est très juste sur la nécessité pour la justice précisément d'intervenir dans des conditions qui permettent de faire aboutir des affaires. Lorsqu'on est des années après les faits et qu'il n'y a pas d'éléments, notamment dans des témoignages extérieurs, dans l'histoire de la personne, qui permettent d'établir suffisamment que la personne qu'elle accuse a commis ces faits, qu'elle peut donc être renvoyée devant une cour d'assises en général, qu'il y a suffisamment d'éléments pour condamner, la réponse de la justice, quel que soit le crédit qu'elle va pouvoir apporter finalement individuellement dans l'interaction à la personne qui est en face d'elle, la réponse sera nécessairement celle d'un non-lieu, parce que dans une démocratie, on ne peut pas avoir un droit pénal qui soit fondé finalement sur des bases aussi ténues. Et on va se retrouver dans une situation, si on allonge les délais de prescription encore plus, et ils ont déjà été très largement allongés, dans des situations dans lesquelles on crée une illusion et les personnes qui dénoncent ces faits vont se retrouver face à des décisions judiciaires qui vont être d'une violence extrême. Lorsque on a, ça s'appelle un non-lieu, une ordonnance de non-lieu. Et c'est quelque chose qui est très mal vécu par les plaignantes, puisque ce que disent en général les personnes, c'est « mais vous êtes en train de me dire, la justice est en train de me dire que ça n'a pas eu lieu. Et moi, je crie que j'ai été victime de ces faits-là. » Or, ce que veut dire le non-lieu juridiquement, c'est qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Il n'y a pas lieu à poursuivre aussi parce que ce serait compliqué dans le temps du procès, notamment pour la personne accusée, de pouvoir se défendre. Alors, on est vraiment aujourd'hui dans une demande qui est compréhensible de la part de personnes qui ont souffert dans leur chair, mais à laquelle on ne peut pas, dans une démocratie, répondre. Et il faut vraiment insister sur le fait que, dans ces situations où la dénonciation des faits est trop tardive, il ne peut pas y avoir d'issue judiciaire qui donne aux victimes, finalement, toute leur place. Et c'est pour ça que ce sur quoi il faut agir, ça n'est pas sur la loi. Les bonnes intentions des législateurs n'ont pas fait une bonne législation, encore une fois. Ce sur quoi il faut agir, c'est permettre à des personnes qui ont été victimes de dénoncer beaucoup plus tôt ces faits-là. Et ça, c'est un changement sociétal. Ça veut dire avoir une véritable action sur ce que peut être l'appréhension de ces violences, comment est-ce que on accueille la parole des personnes dans tous les espaces sociaux, à l'école, comment est-ce que on s'assure précisément que lorsqu'il y a des signes ou des dénonciations dans un cadre familial, il puisse y avoir une suite judiciaire dans un temps proche des faits. Parce qu'une bonne justice, c'est une justice qui reste proche des faits.
Corinne Audouin, puis Rodolphe Costantino.
Est-ce que justement la question que ça ne pose pas et que pose Daniel, c'est finalement le rôle qu'on assigne à la justice, c'est-à-dire qu'on demande à la justice d'être une forme de thérapie. Et là, c'est vers Rodolphe Costantino que je me tourne, puisque vous accompagnez, vous représentez une association, vous voyez ces victimes quand vous êtes en procès d'assises. Ce qu'il faut dire, c'est qu'un procès, ce n'est pas une thérapie, même si ça peut en faire partie peut-être, mais il ne faut pas attendre d'un procès une guérison ?
Non, je crois que derrière ces procédures qui sont extrêmement lourdes, je le vis au quotidien depuis 25 ans, puisqu'en effet, toute l'activité de mon cabinet consiste à accompagner les victimes. Je le vois bien, derrière le procès, c'est ce vide abyssal, parce que tout avait été mis, si je puis dire, dans la procédure pénale, avec l'espoir qu'après la procédure pénale, on se sentirait mieux et que toutes les difficultés qu'on avait eu à rencontrer ou qu'on rencontrait se seraient volatilisées, ce qui n'est jamais le cas, évidemment. Alors, c'est un passage nécessaire, j'ai envie de dire, mais clairement pas suffisant. Non, la justice, c'est pas une thérapie. Et si c'est une thérapie, elle est extrêmement violente. pour les victimes.
Même si on gagne, entre guillemets.
Même si on gagne.
Et pourquoi même si on gagne ?
Parce qu'avant de gagner, il y a tout ce chemin incroyable à parcourir pour les victimes, qui est très douloureux et très long. On évoquait tout à l'heure cette question-là de la prescription. Je crois qu'il faut dire aussi aux gens que ces affaires qui sont des affaires anciennes, par ailleurs, ne sont pas traitées par priorité, pour des raisons qu'on comprend bien. Donc, ce sont des instructions qui sont extrêmement longues. On a des enquêtes préliminaires, par exemple, qui peuvent durer 2 ans et demi, 3 ans parfois, sur ces affaires-là. Sans compter ensuite l'information, qui effectivement, ce dossier de fait très ancien, va toujours être un dossier qui va être mis au fond de la pile, si je puis dire. Donc, ce sont des attentes infinies. C'est toute la dureté de la confrontation avec l'auteur, c'est toute la suspicion qu'il y a autour de votre parole. Est-ce que vous dites vrai? Est-ce que vous mentez pas? Etc., etc. Donc, c'est toujours extrêmement rude, c'est toujours extrêmement difficile. À cet instant là où on parle, j'ai une petite pensée pour les plaignantes dans l'affaire Baupin. Croyez-vous que ces femmes qui ont eu à affronter une instruction à qui on a fait croire un temps sans doute que peut-être elles pourraient aller au bout de leur affaire, se sont entendues dire aujourd'hui qu'en définitive, on n'irait pas plus loin parce que la prescription est acquise. Voilà. Est-ce que c'est pas plus douloureux, ça, après tout ce qui a déjà été vécu par elles dans le cadre de la procédure, que si on leur avait dit d'emblée, écoutez, là, il va y avoir un problème. Bon, alors, on le savait peut-être pas, on pouvait pas le définir, il fallait voir à quel moment les faits s'étaient produits exactement, etc., etc. Bon, mais je veux dire par là qu'il y a sans doute un travail à faire en amont avec les victimes, et là, je rejoins absolument ce que dit votre autre invité.
Elisabeth, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, nous vous écoutons, Elisabeth.
Merci de prendre mon témoignage, car ce n'est pas une question. Donc voilà, j'étais un peu choquée par certains mots que j'ai entendus dans votre émission. Prospérer sur certains dossiers, les dossiers sont vides, grâce à la prescription. Et je me suis plus reconnue dans le témoignage de Daniel. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais abusée par un curé de l'âge de 7 ans et demi à 9 ans. Que ma mère a compris les choses, qu'elle est intervenue dans le cadre d'une réunion que j'avais avec le curé, seule sur ses genoux, et qu'elle a piqué une crise de nerfs, qu'elle a tout balancé et qu'elle a parlé de la police. Donc, pour moi, du coup, comme c'était normal, hein, c'est naturel, l'abbé était vieux, donc il était gâteux. Et donc c'est normal qu'il m'embrasse, qu'il me caresse, qu'il me fasse des bisous complètement baveux. Et donc j'en ai voulu beaucoup à ma mère. C'était elle la coupable.
Pourquoi elle, Elisabeth ?
Elle avait parlé de police.
Et qu'est-ce que ça a suscité en vous pour qu'il y ait de la colère ?
Bah parce qu'il était gentil, l'abbé. C'est juste qu'il était gaga. C'est ce qu'on m'avait dit. Hein. J'étais scout, j'étais Jeannette. Et les chefs avec qui je m'avais parlé m'avaient dit « Non, mais c'est parce qu'il est gaga, faut pas lui en vouloir. » Donc, voilà. Il était gaga, donc il était gentil. Et donc, j'en ai énormément voulu à ma mère. Et du coup, après, j'ai quand même eu un coup. Ma mère a fait en sorte qu'il soit plus notre aumônier. Et il est parti chez les Louveteaux, chez les garçons. Et du coup, j'ai eu un comportement très déviant envers les hommes adultes. Donc, j'avais pas forcément de libido, mais dès l'âge de 13-14 ans, même peut-être avant, je n'ai pas pu m'empêcher de séduire les adultes. Et donc, ça a pu amener aussi des problèmes dans certains couples. Et le jour de mes 21 ans, je ne sais pas pourquoi, j'en ai reparlé à ma mère. J'ai dit, écoute, peut-être me suis-je imaginé quelque chose, ou peut-être est-ce vrai. Peux-tu me dire si ça s'est passé comme ça ? Donc, elle a réagi tout de suite, encore très en colère. Ah, ce putain de père Cordier ! Bon, je peux le dire, il est mort. Et donc voilà, elle m'a dit, bon, on était dans une ville très bourgeoise, mes parents étaient connus, donc ça se faisait pas de porter plainte à l'époque. Et ça y est, il y avait prescription. Et je m'en fous. J'ai besoin d'être reconnue comme victime. Je m'en fous qu'il soit mort ou pas. C'est de besoin d'être connue comme une victime dont la jeunesse, l'enfance, la fin de l'enfance a été foutue en l'air, l'adolescence a été complètement foutue en l'air, la construction de l'adulte a été foutue en l'air, et en tant que femme, et voilà.
Et rien.
Je ne supporte pas cette idée.
Et rien,
de
Elisabeth, là.
Et je suis archi offusquée, enfin je sais pas comment dire, mais par ce qui s'est passé avec l'affaire Baupin aujourd'hui, qu'il ose porter plainte. Non seulement il y a un enjeu à cause de la prescription.
Il y a la plainte derrière contre les plaignantes.
Il y a la plainte derrière, et ce qui est abominable, enfin, je pense que ces abus sont aussi possibles de la part de femmes sur des petits garçons, hein, là-dessus, bon voilà. Mais qu'il ose porter plainte derrière. Alors là, pour lui, il n'y aura pas de prescription, hein. Là c'est bon, hein. Il est dans les temps, et enfin, je trouve ça abominable. Et il n'y a pas droit à la prescription pour ce genre de crime qui vous fout en l'air votre vie alors que vous avez 7 ans et demi et que ça va durer toute votre vie, quoi. C'est, je ne comprends pas la prescription et surtout pas une prescription de 10 ans, peut-être maintenant de 20 ans, alors que c'est extrêmement difficile d'en parler. Enfin, quand vous avez 9 ans, comment réussir à comprendre que ce n'est pas normal ce qui vous est arrivé? Comment? Évidemment que ça prend plus que 10 ans, 15 ans, afin de comprendre cela. Et donc, voilà, là-dessus, je ne comprends pas, et je ne supporte pas la réaction de Baupin aujourd'hui, et je suis très choquée. Et pour moi, les prescriptions pour crimes, non, ça n'a pas le droit d'exister
ça n'a pas de
dans
sens,
le code
ouais.
civil.
Merci Elisabeth, merci beaucoup d'être intervenue sur France Inter, et merci pour votre témoignage. Laurence Blisson.
Je crois que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est le report du point de départ de la prescription pour les faits qui ont été commis sur des enfants, qui part à 18 ans. Et ça, c'est une règle qui est essentielle parce qu'effectivement, lorsqu'on est un enfant et lorsqu'on est victime de ce type d'acte, on n'est pas en capacité parfois de comprendre ce qui se passe et encore moins de dénoncer. Il faut malgré tout faire des efforts pour que à l'école, dans l'environnement médico-social, dans les familles, il y ait aussi une capacité, là, on entend Elisabeth qui évoque sa mère, une capacité aussi à aller dénoncer dans des milieux qui sont parfois un peu fermés.
C'est
ce qui est décrit, notamment dans certains cas, des milieux, par exemple, celui qu'elle décrit. Au-delà de
j'ai
ça...
J'ai besoin d'être reconnu comme victime, et je m'en fous qu'il soit mort, a dit Elisabeth. Cette demande-là, vous dites-vous, en tant que magistrate, qu'elle n'est pas de votre ressort, vous ne pouvez pas y répondre?
Alors là, par ailleurs, on a une autre cause d'extinction de l'action publique. Je suis désolée, les termes juridiques sont durs, je l'entends, c'est ce que dit Elisabeth, mais à partir du moment où la personne qui est accusée est décédée, il n'y a plus de possibilité d'une enquête. Évidemment que cette demande de reconnaissance, elle est importante et elle va s'adresser prioritairement à la justice, alors même que, en réalité, on devrait, dans notre société, après avoir brisé effectivement un certain nombre de tabous sur l'existence des violences sexuelles, sur le fait que les violences sexuelles existent principalement dans des cadres de l'intimité, dans la famille, avec des proches, après avoir brisé ce tabou, on doit pouvoir arriver à des formes de reconnaissance sociale et à des formes de prise en charge sociétale de ces situation-là. La situation de Denis Baupin a été évoquée, par exemple, cette affaire. Je crois que cette affaire, elle démontre qu'il y a un vrai problème de rapport de genre dans les sphères du pouvoir. On est quand même face à des femmes qui ont accès à un certain nombre de capacités sur le plan social, sur le plan juridique, elles sont... Et malgré tout, il y a eu ce temps du non-dit, de la non-dénonciation de ces faits. On va pas systématiquement dans une logique où on va repousser la prescription. Ce sur quoi il faut agir dès aujourd'hui, ça n'est pas sur la loi. C'est précisément sur ces dynamiques sociales qui consistent à finalement empêcher certaines victimes de dénoncer des faits dans un temps utile pour la justice.
Corinne Audouin, oui. Puis Maître Costantino.
Une précision justement sur les femmes qui accusent Denis Baupin. Elles ont dit aujourd'hui, je crois, en tout cas l'une d'entre elles, c'est prescrit, tant pis, je m'y attendais, mais au moins, je ne regrette rien parce que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et finalement, voilà, ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire que, effectivement, on se saisit de la justice comme d'un outil, mais finalement, ce qui est cherché, le but est peut-être ailleurs et d'être entendu et reconnu. Je crois qu'Elisabeth a parlé et peut-être que ça aussi, ça fait partie de sa démarche à laquelle la justice peut-être ne peut pas répondre.
Il est mort, j'ai besoin d'être malgré tout reconnu comme victime, disait Elisabeth, maître Costantino.
Oui, mais j'ai envie de dire que les grands principes de droit auxquels nous faisons référence, ou quelques convictions philosophiques qui s'expriment autour de la question de la prescriptibilité, parce qu'au fond, je veux dire, tous ces débats-là que nous avons là depuis tout à l'heure, ne portent pas sur la question du 6 ans, 15 ans, 20 ans, 10 ans. La question sous-jacente, c'est bien celle de la prescriptibilité. C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, ce qu'on entend là de la part des victimes, c'est pas la question de l'imprescriptibilité. C'est cette question-là qu'on nous pose. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut à ce propos-là. On peut évoquer quelques positions plus philosophiques et dire que une société du vivre ensemble ne peut pas s'accommoder de l'imprescriptibilité. On peut dire tout un tas de choses. On peut dire que sur ces agressions sexuelles, là, en dépit des dégâts qu'elles occasionnent et qu'on entend parfaitement dans ce témoignage-là qui vient de s'exprimer il y a quelques instants, on peut se dire oui, d'accord, mais alors les crimes de sang seraient pas prescrits et seraient prescriptibles et les agressions sexuelles ne le seraient pas. Enfin, voilà, je veux dire. Mais on peut avancer tout un tas d'arguments. C'est sûr que devant la douleur d'une victime telle qu'elle s'exprime là, je veux dire, on n'a pas de mots pour s'expliquer. C'est extrêmement compliqué. Mais il y a en effet une demande qui est une demande légitime de reconnaissance en qualité de victime. C'est une demande à laquelle la justice néanmoins n'est pas sourde. On le voit bien, puisqu'on évoque le cas Baupin là depuis tout à l'heure. Je veux dire, la déclaration de François Molins, qui est le procureur de la République, rend compte du fait qu'il avait parfaitement conscience de ce qu'était la demande des victimes, puisque en dépit de la prescription, il va quand même faire une déclaration publique dans laquelle il dit, et ça n'est pas neutre, au terme de déclarations mesurées des victimes, constantes et corroborées par des témoignages, certains faits étaient susceptibles d'être qualifiés pénalement. Si c'est pas une manière, au fond, de reconnaître les victimes, qu'est-ce que c'est ? Je veux dire ça pour dire que la justice n'est pas sourde à cette demande-là.
Daniel est en ligne de l'Aveyron. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour. Dans l'Aveyron, tout est bon.
Je vous crois.
Merci France Inter, ma radio préférée. Je voulais simplement faire une remarque. Je ne vais pas vous faire une consultation téléphonique au niveau de France Inter. Je suis médecin et ma question est la suivante. Actuellement, les médecins, quand nous interrogeons nos services juridiques, nous sommes responsables de notre comportement vis-à-vis des patients pendant 30 ans. Plus l'âge de la majorité des enfants. C'est-à-dire que si j'examine un nouveau-né aujourd'hui, que je fais une prescription ou une... Je suis responsable pendant 48 ans. Est-ce que vos invités peuvent me confirmer ça ? Et j'incite également les auditeurs à lire le livre fantastique de France Inter, La maladie Sachs.
Merci Daniel. Alors pour les médecins, est-ce que quelqu'un a des lumières autour de cette table ? Non, non, non.
Je voudrais dire, je ne sais pas si les questions de responsabilité civile ou médicale, ou disciplinaire par l'ordre des
Daniel,
médecins,
vous pouvez nous éclairer. C'est sûr.
C'est pas disciplinaire, hein.
Oui, non, mais bien sûr, mais au nom de quel principe on vous demande de conserver des archives pendant 48 ans ?
Eh bien, c'est au plan juridique, c'est-à-dire que nous sommes responsables de notre comportement professionnel pendant 30 ans pour les patients, plus l'âge de la majorité pour les enfants.
Mais ça, c'est dans des cas éventuels où il faudrait
non,
par la suite...
Non, mais c'est au cas où on aurait une demande juridique, c'est-à-dire que où il y aurait un procès. Si un procès, j'examine un enfant de 10 ans, etc., pendant 30 ans plus 8 ans, je dois pouvoir donner les explications de mon attitude, de mon comportement, de ce que j'ai fait. Et donc, moi, je pose la question aux juristes, parce que il semblerait que les médecins, on soit dans une catégorie particulière, parce que là, j'ai entendu tout ce que vous avez dit, mais je comprends, il y a des prescriptions, des fois pour 2-3 ans, des fois pour 10 ans, et nous, c'est 48 ans quand c'est un nouveau-né.
Bien compris, Daniel, mais j'ai peur que nous ne puissions...
Je crois que ça excède très largement le champ de notre discussion qui est sur le terrain pénal, et que là, on est sur d'autres types de responsabilités dont j'ignore si elles sont civiles, déontologiques...
Je pense sur ce point ou un autre.
De ce que je comprends, en tout cas, de ce que dit Daniel, c'est ça c'est peut-être qu'il doit conserver effectivement ses documents pour pouvoir les présenter à la justice, mais pourra pas être poursuivi 48 ans après, ça me paraît. Un médecin est soumis à la même loi de tout le monde, vous êtes d'accord,
Laurence Glisson?
Oui, bien sûr. On n'est visiblement pas en matière pénale.
Voilà, donc je pense qu'on ne parle pas du même cas, et un médecin ne sera pas responsable 48 ans après d'un acte qu'il a pu commettre.
Maître Costantino disait qu'il y avait une approche philosophique des questions que l'on croise ce soir. Le communiqué du syndicat de la magistrature à propos de cette loi dit précisément que la prescription est l'un des piliers de la justice et non pas une entrave à la justice. Est-ce que vous pouvez expliquer ce point qui est essentiel ?
Bien sûr. La prescription, c'est effectivement ce qui, dans une société, dit qu'à partir d'un certain moment, on ne peut plus poursuivre les personnes. Et c'est une garantie pour tous qui a un certain nombre d'origines. Certaines sont moins audibles aujourd'hui, c'est cette notion d'apaisement social, finalement, de dire plus le temps passe entre la commission d'une infraction pénale et puis le temps à partir du moment où il pourrait être poursuivi, plus finalement la société, à un moment, commence à oublier, commence à être dans une dynamique dans laquelle il serait finalement contre-productif de réactiver ce qui s'est passé. Alors c'est beaucoup plus compréhensible quand on parle d'un cambriolage par exemple ou d'un acte de délinquance relativement moins grave. Et d'ailleurs, on est là aujourd'hui dans une loi qui a concerné tous les délits et va permettre par exemple de poursuivre ces faits 6 ans plus tard, mais plus avec l'interruption des délais. Donc on a ce principe d'apaisement social, un droit à l'oubli et une idée selon laquelle il faut tout à l'heure était évoquée la question du vivre ensemble, finalement, de faire société. Et ça implique, effectivement, à un moment, que des actes qui ont été commis, répréhensibles, illicites, puissent ne plus être appréhendés par la justice, aussi parce que ça a des conséquences en termes de droit de la défense. Il faut, pour la justice, assurer un droit au procès équitable, et ça implique pour les personnes de pouvoir se défendre d'une accusation. Et le fait qu'on ait aujourd'hui des preuves scientifiques qui peuvent être invoquées des années après les faits, mais qui auront nécessité d'être recueillies au moment de l'acte, au moment où s'est passé le crime ou le délit, il y a une vraie difficulté pour une personne qui est accusée des dizaines d'années après les faits, à pouvoir se défendre contre ce type d'accusation, parce que, on n'a pas les témoignages, on n'a pas le souvenir, on peut pas dire non, je n'étais pas là, j'étais plutôt là, etc. Et c'est un enjeu essentiel lorsque on réouvre des affaires des années après les faits.
Maître, vous conseillez parfois à des gens qui viennent vous voir d'éviter le circuit de la justice ?
Oui. Je crois que dans mon travail, c'est sans doute ce que j'ai de plus difficile à faire. C'est recevoir une victime, entendre la douleur qu'elle exprime, entendre la demande qui est la sienne, pressante, de justice, de reconnaissance, tout ce que
les auditeurs.
Vos auditeurs ont dit, rappelé, et de devoir lui dire, soit pour vous c'est prescrit, et donc on ne pourra pas aller au-delà, soit de lui dire on peut le faire, c'est pas encore prescrit, mais on n'arrivera rien à démontrer du tout.
Voilà. Et vous ne serez pas apaisé.
Et vous ne serez pas apaisé, au contraire. Je crois que c'est sans doute dans mon travail ce que j'ai de plus difficile à faire. Je le fais pas quotidiennement, mais presque.
Et c'est une difficulté partagée par les magistrats qui interviennent dans ce domaine.
Merci à tous les trois, merci aux auditeurs d'Inter.